chacun et chacune d'entre vous. Nous allons reprendre nos activités, cette cinquième session de notre colloque intitulé « Planches hexagonales et francophones, l'au-delà de la science-fiction ». Nous allons avoir ce matin un programme encore bien rempli. Deux présentations suivies d'une autre table ronde et complété par les deux dernières présentations de ce colloque qui a été riche en présentations, riche. Les dieux sont cléments, il reste quelques exemplaires du magazine Nuit Blanche, c'est votre dernière chance. N'hésitez pas à réclamer votre...
Tu les refuseras la nuit, voilà. C'est ça, tu les refuseras pendant la nuit.
Oui, j'ai ma propre presse clandestine que j'apporte en voyage. Alors, ce matin, notre premier intervenant, il s'agit de Julien Baudry, qui mène depuis plusieurs années des recherches sur l'histoire de la bande dessinée 20e, 21e siècle. Sa thèse de doctorat est en cours de réalisation à Paris 7, sous la direction d'Annie Renoncia. Cette thèse porte sur le dessinateur Alain Saint-Augan, et la bande dessinée pour enfants dans l'entre-deux-guerres. À travers les publications dans les revues en ligne Comicalité, 9e art 2.0 et duneuf.org, ainsi que sur son blog philacterium.fr, Julien Baudry s'intéresse également à la bande dessinée numérique. Il a publié une histoire... il a publié au printemps 2012. Une histoire de la bande dessinée française au 9e art, 2.0. Il travaille aussi sur la diffusion du patrimoine de la bande dessinée, et c'est la raison de sa venue au colloque, à la bande dessinée de science-fiction française. Ce matin, il va nous présenter une communication toujours intitulée, vous n'avez pas changé votre titre, L'affrontement des traditions de la science-fiction pour enfants dans la bande dessinée de l'immédiate après-guerre.
Alors, ce que je vous propose en fait dans cette présentation, c'est de faire une sorte de panorama de la bande dessinée de science-fiction autour de l'immédiate après-guerre, donc dans les années 1940-1950, au tout début de la chronologie fixée ici dans ce colloque. Donc, un panorama que j'ai un peu restreint dans un cadre un peu plus spécifique de la culture enfantine. Alors, pour différentes raisons, dans un premier temps, parce que malgré tout, la bande dessinée de science-fiction se développe principalement dans la bande dessinée pour enfants, du moins jusqu'aux années 1960, et beaucoup plus riche à destination de ce public. Et ensuite, car elle permet aussi un peu de problématiser en quelque sorte le genre science-fiction dans la bande dessinée, à travers l'affrontement en fait, de plusieurs héritages qui datent du siècle précédent ou de la première partie du XXe siècle, notamment entre d'une part une tradition que l'on pourrait appeler une tradition didactique en quelque sorte de la science-fiction pour enfants qui idéalise en quelque sorte le modèle de Jules Verne et du divertissement divertissement qui mêlé à l'éducation, et dans un second temps la tradition d'une science-fiction fortement influencée par la bande dessinée de science-fiction américaine qui arrive en France dans les années 30, qui est une science-fiction davantage orientée vers le divertissement, une science-fiction de masse en quelque sorte, qui arrive à travers des titres comme Flash Gordon, qui est parmi les titres les plus connus, qui paraît dans la presse pour enfants française à partir de 1934. Donc ce que je vous propose ainsi, c'est de voir un petit peu comment ces différentes traditions vont... où ces différents héritages vont se rencontrer dans les années 1940-1950. En voyant dans un premier temps quelle est l'influence réelle finalement de ce champ américain, voir ensuite le contexte de critique qui intervient à cette époque dans le cadre de la conception d'une loi pour la protection des publications pour enfants, qui va notamment évoquer la question de la science-fiction dans la bande dessinée pour enfants, et enfin de voir les effets de permanence et de continuité aussi par rapport à ce qui pouvait se faire dans la première moitié du XXe siècle. Donc, en ce qui concerne l'influence de la science-fiction américaine, souvent la historiographie sur la bande dessinée évoque donc, justement l'arrivée de la science-fiction américaine dans les années 1930 autour de grands titres comme Flash Gordon ou Buck Rogers, qui vont arriver dans un certain nombre de revues pour enfants comme Robinson ou Gora, et que c'est donc l'arrivée de ces titres de science-fiction américains serait le point de départ en quelque sorte de la bande dessinée science-fiction française. Donc, ce n'est pas tout à fait exact, mais il est vrai que l'introduction de ces nouveaux titres va introduire une rupture qui, à partir des années 40, va modifier en quelque sorte la production de bandes dessinées de science-fiction faites par des auteurs français. On a dans un premier temps la rencontre entre des nouveautés éditoriales et justement donc le genre de la science-fiction. Nouveautés éditoriales qui interviennent avec de nouvelles formes de livres de bandes dessinées, comme par exemple des fascicules périodiques qui paraissent, donc qui existaient évidemment auparavant dans d'autres littératures, mais qui pour la bande dessinée restent relativement nouveaux. Donc là on voit par exemple un fascicule qui s'appelle Les Exploits de Radar, qui paraît tous les mois, et qui est réellement une bande dessinée de science-fiction française par Bob Linnell, qui correspond en quelque sorte à justement ce nouveau type de production éditoriale, dont on connaîtra d'autres déclinaisons, comme par exemple les petits formats ou les récits complets, qui, un peu dans le même esprit, proposent un récit par fascicule. Il y a dans un premier temps ces nouvelles formes éditoriales, et dans un second temps, une nouvelle organisation des grandes revues pour enfants, qui vont en fait mieux organiser les différents bandes dessinées qu'elles publient en grands genres bien distincts. Et on va avoir des revues comme, parmi les revues immédiates après-guerre les plus connues comme Vaillant ou encore Spirou, ou encore Cogue, ou Cœur Vaillant également, même si la science-fiction de l'Orca est un peu moins présente, qui vont en fait distinguer différents genres de bandes dessinées, donc avoir une série de bandes dessinées historiques, une série de bandes dessinées science-fiction, une série de bandes dessinées de western, et de cette manière, en fait, les différents genres de bandes dessinées vont se compartimenter en quelque sorte, et le besoin en bandes dessinées science-fiction va pouvoir se faire. Alors, là-dedans, comment intervient l'esthétique propre à la bande dessinée de science-fiction américaine? Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a, dans un premier temps, un véritable effet générationnel d'auteurs qui vont être marqués par par ces différents titres américains qui paraissent dans les années 30, qui sont des auteurs qui pour la plupart ont justement commencé dans les années 30. L'exemple le plus typique de cette nouvelle génération d'auteurs de bande dessinée, c'est Edgar Fier Jacobs, donc connu en tant qu'auteur de Blake Mortimer, on aura une intervention dessus par la suite, et qui en fait est extrêmement influencé par le Flash Gordon d'Alex Raymond. Donc ce qu'on voit ici, c'est que dans l'hebdomadaire Bravo, qui est un hebdomadaire belge qui paraît dans les années 1940-1950, Jacobs va en fait prendre la suite d'Alex Raymond à partir du moment où les bandes américaines ne parviennent plus. On est dans le contexte de l'occupation allemande, donc les bandes d'Alex Raymond ne paraissent plus dans Bravo, et Jacobs va en quelque sorte terminer la parution de Flash Gordon dans cette revue, et là on voit donc un exemple de case de planche qu'il va produire justement pour terminer Flash Gordon. Et par la suite, toujours dans Bravo, il va publier un autre titre qui cette fois est un titre qui lui est propre, qui est Le Rayon U, qui sera par la suite réédité d'ailleurs à différentes occasions, et qui par son esthétique et par ses personnages rappelle énormément le Flash Gordon d'Alex Raymond. Donc là, il y a vraiment une filiation avec Jacobs qui est assez évidente, qui est parfois moins évidente dans le cas d'autres auteurs, mais il y a un réel effet générationnel avec des auteurs comme Auguste Lippois par exemple, ou Marie-Jacques, qui de la même manière commencent dans les années 30 et vont justement s'intéresser à la bande dessinée de science-fiction américaine. Cette esthétique est marquée par un style graphique un peu spécifique qui la plupart du temps associe de façon assez systématique le genre de la science-fiction a un style assez réaliste de production de bande dessinée, et également avec des thèmes qui vont revenir de façon assez frappante. Donc là par exemple on voit le début de Flash Gordon tel qu'il est publié en France, ici une réédition un peu plus tardive chez Futuropolis, Et donc pour rappel, donc le début de Flash Gordon est l'arrivée d'une planète inconnue, qui va rencontrer la Terre, percuter la Terre, et donc qui va provoquer un certain nombre de catastrophes. Et un héros, Flash Gordon, va se rendre sur cette planète afin de résoudre les problèmes engendrés par l'arrivée de la planète sur la Terre. Donc là, on voit toute une série de catastrophes dans cette première page qui interviennent, et des auteurs français vont en fait reprendre cette première page dans leur propre production. Donc ça va être le cas dans Les Pionniers de l'Espérance, qui paraît dans Vaillant, et qui reprend un thème en fait exactement identique, c'est-à-dire qu'une planète arrive sur Terre et provoque des catastrophes. Un groupe d'hommes, ils ont pour nom Les Pionniers de l'Espérance, l'Espérance étant le nom de leur vaisseau spatial, vont se rendre sur cette planète. Et la construction, en quelque sorte, de la première planche est la même. Même chose dans Atomas d'Auguste Lippois, où, de la même façon, cette fois, comme dans Flash Gordon, un seul héros, Atomas, qui va se rendre sur la planète qui menace la Terre. Donc, on a ici la reprise d'une introduction assez classique de Flash Gordon dans toute une série de bandes dessinées françaises de l'immédiate après-guerre. Le genre finalement se construit à la fois comme genre en quelque sorte à l'exemple de Flash Gordon, mais aussi par l'emploi d'un certain nombre de références littéraires à d'autres œuvres de science-fiction. On le verra par la suite. Et en tant que genre, il va également se développer dans la direction du space opéra. Là encore, à l'image de Flash Gordon, donc ces récits de conquête spatiale qui se mêlent souvent au roman d'aventure. Et on voit notamment un motif qui va être extrêmement récurrent dans toutes ces bandes dessinées, à la fois dans les bandes dessinées américaines et dans les bandes dessinées françaises de l'immédiat d'après-guerre. C'est la lutte contre des animaux antédiluviens, un rappel en quelque sorte de la littérature de romans préhistoriques. Donc là, on le voit dans deux bandes américaines qui paraissent en France, de Brick Bradford et Flash Gordon, qui luttent contre des animaux préhistoriques. Et c'est une thématique qui va être extrêmement récurrente dans la bande dessinée française de science-fiction de l'après-guerre. Donc là, on le voit notamment dans Les Pionniers de l'Espérance, où le héros combat une sorte de scarabée géant, et dans Le Rayon U, où une attaque de ptérodactyle survient. Alors cela n'empêche pas finalement un contexte un peu difficile pour la science-fiction en France, au sens où donc, dans cette période 1945-1960, on a un contexte de critique assez forte envers la science-fiction dans le cadre des discussions sur la loi de protection des publications pour la jeunesse. Donc, pour rappel, c'est une loi qui est proclamée en 1949 et qui souhaite en quelque sorte, enfin, concrètement même, censurer les publications pour enfants, en retirant les éléments jugés néfastes à l'enfance. Ces éléments étant la plupart du temps d'ailleurs des bandes dessinées. Ce qui est d'ailleurs ce qui fait qu'il est souvent assez difficile de repérer les critiques propres à la bande dessinée ou propres à la science-fiction, au sens où dans les critiques faites lors des débats sur cette loi, il y a de nombreux amalgames qui sont faits entre on va dire les critiques de la science-fiction et les critiques de l'image dans la presse pour enfants en général, ou encore les critiques de la science-fiction et un anti-américanisme assez prononcé d'un certain nombre de pédagogues ou de députés. Donc cette loi se construit entre 1945 et 1949, il y a de nombreux débats qui font intervenir donc des pédagogues, des hommes politiques, mais aussi des éditeurs de bandes dessinées et de façon un peu plus marginale des auteurs. Donc la loi est proclamé en 1949, et entre 1949 et 1960, donc une commission va être créée, commission de protection des publications pour la jeunesse, qui d'ailleurs est officiellement toujours en activité, et qui a pour but justement de regarder ce qui se fait dans les publications pour la jeunesse afin de noter le matériel jugé inconvenant, souvent sur des critères moraux d'ailleurs assez indistincts. En ce qui concerne plus spécifiquement la science-fiction, les critiques qui vont être faites à la bande dessinée science-fiction vont concerner dans un premier temps, donc là je reprends une distinction qui a pu être faite par Harry Morgan qui a travaillé sur ce sujet. Dans un premier temps, on reproche aux bandes dessinées de science-fiction qui paraissent dans les revues pour enfants d'ignorer les véritables données de la science. On leur reproche également de faire œuvre de psychose et de sensationnalisme en les associant souvent d'ailleurs aux bandes dessinées d'horreur ou fantastiques en général, et on les accuse également de fausser les connaissances des enfants, les connaissances scientifiques des enfants. Donc finalement, ce sont des critiques ici qui, pour la plupart, sont assez peu fondées. On peut le repérer, comme l'a fait justement Harry Morgan, en soulignant que l'auteur de Brick Bradford fait référence dans différentes interviews qu'il donne à l'exemple de Jules Verne, notamment, qu'il a inspiré pour ses bandes dessinées. Ce qui fait souvent qu'on va voir apparaître un peu dans ses pensées critiques en négatif, même si parfois il est également nommé de façon concrète, la figure de Jules Verne, qui est en quelque sorte idéalisée comme l'auteur, comme un auteur de science-fiction pour enfants, d'une bande dessinée science-fiction éducative idéale, qui apprendrait à l'enfant les données de la science, qui lui donnerait foi au progrès. Donc c'est un peu les reproches qui sont faits à la bande dessinée science-fiction américaine, et qui dessine justement cette image qui est fortement idéalisée finalement, au sens où les romans de Jules Verne avaient aussi un objectif de divertissement assez important. On voit donc dans cette commission en quelque sorte deux visions de la science-fiction se dessiner, qui sont aussi justement l'objet de ce malentendu. Mais finalement, au-delà des critiques qui sont faites à la science-fiction dans les médias d'après-guerre, il y a dans la production même de véritables effets de continuité avec des traditions qu'on pourrait dire purement européennes ou françaises. On va le voir dans un premier temps avec le maintien de la tradition de ce qu'on va appeler la fantaisie scientifique, qui est une tradition qui est assez fortement implantée dans la production graphique, et qui a pour grand ancêtre Albert Robida, notamment l'invention de toutes ces machines scientifiques assez merveilleuses, et qui souvent mêlent justement une sorte de merveilleux scientifique, la magie et la science. On le voit bien avec les premières aventures de Spirou qui paraissent justement dans le magazine Spirou, publié par Franquin. On peut citer par exemple le titre des premières aventures de Spirou, qui est donc « Y a-t-il un sorcier à Champignac ?», ce sorcier étant justement un professeur, un véritable scientifique. Mais il y a toujours donc, dans Spirou, on retrouve la résurgence de cette fantaisie scientifique. J'ai mis ici donc l'image de Radar le robot, une aventure qui paraît en 1947, et qui reprend également donc le motif issu de la tradition de la fantaisie scientifique, de ces machines un peu extraordinaires, qui peut faire penser à Albert Romita. Cette bande dessinée scientifique de science-fiction française, c'est aussi resté eurocentré dans ses références. On le voit par exemple avec certains thèmes qui vont revenir de façon importante et qui sont des réelles références à la tradition littéraire de science-fiction française. Ici, donc, dans Radarius, qui est donc une sorte de petit fascicule qui paraît un peu de la même façon que Radar qu'on a vu précédemment, Radarius face aux Martiens, on retrouve une image qui, en réalité, est directement inspirée d'une illustration d'un roman de Gustave Le Rouge, Le prisonnier de la planète rouge, où donc, le héros se retrouve sur Mars et combat des Martiens qui sont une sorte de Martiens hybrides vampires. Un motif qu'on va ici retrouver de façon exactement identique dans Radarius, en tout cas dans l'illustration de couverture qui en est faite. Donc cette bande dessinée science-fiction française, même si donc Radarius, on le voit très bien, est également fortement inspiré par la tradition américaine, notamment par le mythe du surhomme, mais va également utiliser des références purement françaises. Ce qu'on peut voir aussi ici dans Zigue et Puce d'Alain Saint-Auban, où explicitement il est fait référence au roman de Pierre Benoît, donc on le voit ici dans la case en bas à droite. Donc les deux héros, Zigue et Puce, vont en fait suivre le périple des héros de l'Atlantide de Pierre Benoît et retrouver l'Atlantide au milieu du désert. Et donc, nommément, donc le personnage de Zigue dit c'est le roman de Pierre Benoît que vous nous racontez là, quand le professeur qui vit en Atlantide le raconte ses aventures. Il y a ces citations directes dans un premier temps, là, une science-fiction vraiment de tradition française. Il y a aussi une certaine familiarité avec certains genres, comme ici dans Les Pionniers de l'Espérance, de Raymond Poivet et Roger Lecureux. une planche qui emprunte directement au récit de KPDP, où le héros, donc on est bien dans un récit de science-fiction, mais qui souvent se mêle avec des éléments du roman d'aventure d'une façon plus générale. Et ici, donc, les héros combattent comme dans un récit de KPDP, des motifs qui proviennent justement qui sont des références littéraires directes. On le voit aussi avec des allusions à l'histoire à proprement parler. Donc là, je vais donner un exemple. Donc l'exemple le plus connu souvent est le récit de Jacobs dans Blackie Mortimer, Le secret de l'Espadon, qui est connu pour être justement une citation, qui prend appui sur les événements de la Seconde Guerre mondiale dans son déroulement. Ici, dans Guerre à la Terre d'Auguste Liquois et Marie-Jacques, qui paraît dans Cocardi, on a de la même manière donc, les extraterrestres qui envahissent la Terre, et il y a donc un Français qui va se rebeller contre les gouvernements mondiaux qui décident de capituler face à l'ennemi extraterrestre, en disant notamment que l'humanité ne doit pas capituler. Et on assigne une reprise justement des événements de la Seconde Guerre mondiale. Un rappel, on est en 1946, donc le rappel est assez évident, transparent pour les... Donc une allusion dans Guerre à la Terre, mais surtout ce qui va... Les permanences qu'on va pouvoir peut-être pointer de façon la plus évidente dans cette bande dessinée de science-fiction des médias d'après-guerre, ce sont justement ces aspects un peu plus didactiques de la science-fiction, avec des arrêts sur d'explications scientifiques au cœur des bandes dessinées. Ici, donc justement toujours dans Guerre à la Terre, les auteurs de la bande dessinée vont choisir de faire un arrêt sur le moyen de transport des extraterrestres qui envahissent la Terre, donc des sortes de boules qui avancent toutes seules, protégées, blindées pour éviter les tirs. Et on a vraiment une case qui est un véritable schéma. Alors après, dans l'aspect scientifique pourrait être discuté, évidemment, on est d'accord, mais qui en tout cas cherche à imiter les schémas scientifiques. Alors la vraisemblance de ce schéma est complètement... on ne recherche pas la vraisemblance ici, mais on recherche une imitation en tout cas du schéma scientifique. Ici aussi, dans Les Pionniers de l'Espérance, donc ça c'est un motif qu'on va retrouver de façon assez extrêmement récurrente dans la bande dessinée des médias après-guerre, des explications sur l'effet de pesanteur dans l'espace. On le retrouve notamment dans la mesure où l'un des grands thèmes de cette bande dessinée de science-fiction de l'après-guerre va être justement le voyage spatial. Alors non, ce thème n'était pas exploité dans la science-fiction avant la Seconde Guerre mondiale, c'est un thème assez fréquent dans la science-fiction évidemment, mais ce qui va se passer donc dans les années 50, on va voir apparaître des bandes dessinées de science-fiction qui vont chercher à présenter l'exploration spatiale avec des effets de réalisme quant aux explications qui sont données, ou en tout cas en s'inspirant des voyages qui se produisent alors. Donc dans deux bandes dessinées des années 50, donc L'épervier bleu de Sirius, Alain Cardan de Gérald Fourton et Vendée Porte, et donc évidemment Justif n'est pas mis d'image, mais on pense à Objectif Lune de Tintin, on a justement ce motif du voyage sur la Lune qui va être exploité d'une façon je dirais pas forcément extrêmement scientifique, mais en tout cas avec des arrêts pour des explications sur le voyage en lui-même, et pas seulement sur l'arrivée sur la Lune. Le point commun de ces trois bandes dessinées est d'avoir une longue introduction avant l'arrivée sur la Lune, durant laquelle les personnages vont découvrir comment va se dérouler le voyage. Et donc ici, notamment, avec les héros qui, pendant le voyage même, expliquent un peu comment se déroule leur voyage. Donc ces récits d'exploration lunaire sont aussi donc un effet en quelque sorte de didactisme qui cherche à être introduit dans la bande dessinée science-fiction. Et l'autre élément justement didactique de ces bandes dessinées science-fiction va être la transmission de valeurs morales à travers des personnages, à travers des situations. Donc là, les deux exemples que je vous donne, Météor et Les Pionniers de l'Espérance, sont d'autant plus intéressant qu'en fait, ils reprennent d'un point de vue narratif les scénarios de Flash Gordon, donc les scénarios de space opéra, d'exploration spatiale et de colonisation, en quelque sorte, humaine. Mais contrairement donc, à Flash Gordon, qui est un récit où se mêle cet individualisme du héros qui cherche à mener des guerres constamment sur les planètes sur lesquelles il se trouve, ici, donc, les personnages, aussi bien dans Météor ou dans les Pyrénées de l'Espérance, au contraire, ont cherché à introduire une sorte d'humanisme, ou en tout cas de diffuser des valeurs humanistes sur les planètes qu'ils vont explorer. Alors, dans les Pyrénées de l'Espérance, donc, qui, comme je vous le disais, paraît dans Vaillant, ces valeurs morales en fait, se teintent forcément d'un anticapitalisme assez fort, dans la mesure où Vaillant est une revue qui est produite par le Parti communiste. Donc nécessairement, les auteurs cherchent un peu à reproduire ces schémas. Et là, on voit donc sur cette image donc, la figure d'un méchant capitaliste qui cherche à corrompre les héros dans leur voyage spatial. Alors, dans Météor, en fait, ce qui est transmis, c'est plus l'image d'une civilisation humaine, une image extrêmement civilisationniste, justement, qui va apporter le progrès sur toutes les planètes qu'elle va visiter. Donc là, on voit que les héros de Météor vont expliquer aux extraterrestres comment produire des allumettes, comment produire une brouette. Donc là, on a vraiment une sorte de mythologie un peu civilisationniste du progrès qui est introduite dans ces bandes dessinées de science-fiction. Qui sont à côté des bandes dessinées de science-fiction qui, par ailleurs, reprennent également des éléments du roman d'aventure. Donc, si vous voulez, tous ces éléments sont mêlés les uns aux autres. Ils n'ont pas comme seul objectif des objectifs didactiques. Mais malgré tout, donc, on va avoir la transmission de ces valeurs morales qui, d'une certaine manière, rappelle la tradition didactique construite en creux par les pédagogues de la commission, même si le lien direct entre les deux, on ne peut pas établir le fait que les critiques de la commission aient poussé les auteurs de bande dessinée française à introduire justement ces éléments didactiques, mais disons qu'il y a une sorte de construction un peu parallèle qui se produit dans l'immédiat après-guerre. On voit finalement que les deux traditions, donc la tradition américaine ou la tradition plus européenne, dans la bande dessinée de l'immédiat après-guerre de science-fiction vont se mêler l'une à l'autre pour produire donc justement ces bandes dessinées qui désormais sont connues, donc les Pionniers de l'Espérance. Une des bandes dessinées donc, de science-fiction les plus connues de cette époque, ou encore Guerre à la Terre, où on le verra tout à l'heure avec les œuvres de Jacobs. Je vous remercie.
Merci Julien pour cette très belle présentation, très éclairante et très bien chronométrée. J'invite maintenant Jérôme Goffet à prendre la place. Jérôme Goffet est philosophe. Il nous vient de l'Université Claude Bernard, Lyon 1. Ses recherches portent sur les transformations de l'être humain à des fins non médicales, dopage, chirurgie esthétique, modulation des humeurs, hybridation, prothèse, etc. Il a d'ailleurs publié un essai sur le sujet « Naissance de l'anthropotechnie », c'était en 2006. Ses recherches portent également sur les fondements du schéma corporel et de l'appropriation du corps, sur le corps dans la science-fiction et les retentissements humains des modifications corporelles. Il a, à cet effet, co-dirigé la publication « L'imaginaire médical dans le fantastique et la science-fiction ». Ce matin, il va nous présenter une communication intitulée « Ankibilal entre Dieu et chaos ». Je lui cède maintenant la parole.
Bien. Vous m'entendez ? Ankibilal entre Dieu, chaos et transcendance. Finalement, j'ai rajouté un petit mot parce que ça complétait les choses. Nous sommes rassemblés ici pour examiner des questions de Dieu caché. Alors, à l'évidence, à propos d'Enki Bilal, les dieux ne sont pas cachés. Parce que je vais vous parler de la trilogie Nicopole, et ça commence avec une pyramide et des dieux égyptiens. Donc, les dieux ne sont absolument pas cachés, mais il y a aussi du caché, et un sens du mystère, un sens de la transcendance qu'on peut trouver en particulier dès ce premier ouvrage vraiment solo, La foire aux immortels, qui sera suivi de La femme piège de Froid Équateur, qu'on appelle la trilogie Nicopole. Mais Enki Bilal est un peu gêné avec le terme trilogie. Je pense qu'on pourrait autant dire triptyque que trilogie, parce que l'aspect pictural est aussi important que l'aspect narratif. Ce que je vais vous proposer, c'est un parcours en quatre stations. Mais d'abord, cette petite citation pour vous montrer un peu l'aspect mystère. Dans un livre d'entretien, voilà comment Enki Bilal, quand on le pousse un peu sur des questions auxquelles il n'a pas envie de répondre, il dit « Écoutez, je ne vous donnerai pas de réponse, il faut que vous viviez avec cette question. » C'est pas question-réponse, c'est réponse-question. Un parcours donc en quatre stations que je vais faire avec mes outils, donc des outils de philosophe, inspirés de philosophie du corps, de philosophie de l'imaginaire et puis de philosophie générale finalement. Quatre stations de transit, la première concernera la religion, la deuxième les questions de panthéon, en particulier celui des dieux égyptiens, la troisième une question de transcendance. Et la quatrième, si j'ai le temps, l'histoire de chaos, de cosmos. Voilà. Alors, première station. Voilà, peut-être pas au tout début, mais on a l'arrivée du héros ou anti-héros Alcide Nicopole. Il y a un aspect farce, en fait, chez Enki Bilal, surtout quand il est question de religion. C'est un aspect farce, mais aussi un peu grinçant, parce que il est né quand même à Belgrade, à une époque où le conflit des Balkans n'était pas encore réactivé comme on l'a vécu, mais où les choses ne se passaient pas parfaitement bien. De façon latente, on voyait bien que les communautés vivaient ensemble, étaient très similaires, mais en même temps, le feu couvait. Donc les questions de religion sont tournées un peu en farce, mais derrière c'est un peu plus compliqué. Plus le contexte de guerre froide qui est quand même bien marqué. Donc un aspect farce, un aspect gag. Voilà une des images de la foire aux immortels qui concerne la bénédiction du dictateur Jean-Ferdinand Choublin par son frère, sa sainteté, le pape Théodule Ier. Vous remarquerez que c'est une façon ici de montrer la mise en scène du spectacle. La religion est une mise en scène, un spectacle. Et donc, un décalage profond avec, entre d'un côté, les propos édifiants, et puis de l'autre, le cynisme manipulateur d'un régime. L'art du spectacle est même rehaussé par la présence d'extraterrestres, sous forme d'angelots, de poupées. Par la suite, voulant toujours mieux faire, Théodule Ier, qui est à la fois un peu pris par son rôle, mais qui en même temps est un peu des plombs, souhaite marquer la cérémonie de candidature de son frère à sa réélection en scénarisant un miracle. Et lorsqu'il prononce « Élevons-nous », un dispositif caché le fait effectivement entrer en lévitation. Les angelots extraterrestres, à ce moment-là, qui font partie du décor, se permettent discrètement d'appuyer sur le bouton d'activation du dispositif, et donc de le désactiver, faisant choir le Saint-Père, transformant le miracle en mirage. Les angelots eux-mêmes relèvent d'un autre gag, d'ailleurs. Voilà. Loin d'être dépourvus de sexe, ils se reproduisent, ils prolifèrent, et ils montrent à tous leurs organes génitaux, leurs ventres ronds, les enveloppes enceintes. La religion, donc, atteint ici le niveau zéro du spirituel, assimilant le credo théologique à la propagande fasciste, aplatissant l'élévation des esprits en une manutention des corps. La chute, c'est la revanche des effets spéciaux. C'est le dispositif de lévitation qui se révèle à tous, mais aussi c'est la revanche des figurants, les angelots qui se mettent à décider de leur propre rôle. Et la religion fait loge. Donc on a un ressort qui est franchement dans le grotesque, pour montrer la manipulation. Bon. Alors deuxième station, cette fois-ci l'histoire de ces dieux égyptiens, où on est finalement entre jardin zoologique et jardin théologique. Voilà. Et comme on est à Paris, j'ai mis le métro permis du Wallisien. Si la religion est tournée en ridicule, le rapport au divin est néanmoins manifeste chez M. Kibilal avec une fascination. Ceci dit, c'est une fascination plus esthétique que spirituelle, quoique les deux se confondent un peu chez Bilal. C'est la même fascination esthétique qu'il peut avoir pour les animaux, par exemple. C'est une façon à la fois esthétique, mais aussi un peu spirituelle. La foi aux immortels met en présence un contraste classique entre une humanité sujette à toutes les imperfections, difformité, maladie, mort, et un groupe d'immortels empruntés au panthéon égyptien. L'opposition est aussi figurée verticalement entre les bas-fonds d'un Paris déliquescent et cette pyramide. Bon, suspendu dans les airs, un peu plus haut que la tour Eiffel. Toutefois, si l'axe entre le céleste et le terrestre structure la pensée, il faut néanmoins ajouter que ces deux égyptiens sont à ce moment-là bloqués au-dessus de Paris, faute de carburant. Là, vous avez le dépôt de carburant en dessous. Ils attendent. Et leur commande trop importante, donc Jean-Pierre de Chou-Blanc, ne souhaite pas leur livrer du carburant, surtout gratuitement, puisqu'ils ne connaissent pas les valeurs monétaires. Ils ne connaissent que les valeurs éternelles. Donc finalement, les dieux qui devraient être les maîtres de l'essence des choses sont en panne d'essence. Et l'humour d'Enki Bilal relève vraiment de l'ironie, c'est tellement gros que ça relève aussi du gag, ce dont il a parfaitement conscience d'ailleurs. Il s'en explique dans ses entretiens avec Onovidio. L'idée initiale de la trilogie triptyque Nicopole, c'était de faire quelque chose autour d'un homme un peu déphasé, décalé, errant comme lui, et d'une femme courageuse comme sa mère. Finalement. Mais très tôt vient cet élément d'étrange, d'étrangeté, cette histoire de pyramide. Alors voilà ce qu'il dit. Je voulais parler de la misogynie d'une société en commençant à préparer un personnage de femme, un personnage fort, qui sera un contrepoids à cette société mâle, mais qui sera absent au début de l'histoire. C'est pour ça qu'il n'y a aucune femme, sauf dans les dernières planches, dans la foire des immortels. Elles sont reléguées dans le centre des reproductrices. Je fabrique un univers politique bipolaire, dit-il. Globalement la situation des années 80, puisqu'il s'agit de deux blocs, de deux idéologies qui s'affrontent, et puis je laisse venir les idées les plus farfelues, dont celle qui va s'imposer, cette pyramide immobilisée au-dessus de Paris pour cause de manque de carburant. Une situation absurde. Onovidio lui dit, oui, parce qu'on imagine mal un dieu faisant la queue à la pompe à essence. Enki Bilal poursuit, ça aurait pu aller jusque-là. Je me suis simplement endormi un soir avec cette idée grotesque, et le lendemain, je me suis réveillé avec elle. Dans mon esprit, ça tenait la route. Voilà, ça c'est dans Ciel d'orage. Ainsi, la religion était une mascarade. Et ces dieux ne sont pas indemnes non plus de grotesque et d'ambiguïté. Enfin, les voilà, elles sont bécilles. D'un côté, leurs formes sont archétypiques, presque hiéromorphiques. De l'autre, les premiers dessins les montrent jouant au Monopoly. jeu qui leur a été offert par Jean-Pierre Blanchoublon pour leur apprendre à user des valeurs monétaires et pas seulement des valeurs éternelles. Jeu qu'ils brûleront, l'estimant vulgaire. D'un côté, ils ont la splendeur marmoréenne des statues de pierre dressées pour l'éternité. Il y a un effet de texture. Ils adorent les textures. Donc, on a l'impression d'avoir des corps de pierre. Et d'un autre, leurs corps ont aussi une souple puissance. D'un côté, ils jouissent de pouvoirs surnaturels. D'un autre, ils ne maîtrisent qu'imparfaitement, très imparfaitement, le cours des choses. D'un côté, ils peuvent se métamorphoser en animaux, comme totem. De l'autre, ils vivent des relations de couple très humaines, comme lorsqu'on voit Anubis enlacer Bastet enceinte, une image du bonheur conjugal. Au final, ils sont à mi-chemin de la mythologie et puis de ce qu'on pourrait appeler une image de jeunes beaux individus d'une jet set intergalactique égyptienne. Seul Horus, finalement, dans son orgueil et même dans son ivresse de vengeance, de puissance, a une stature qui paraît vraiment divine. C'est un tireur de ficelle. C'est aussi une figure du dieu de colère, du Deus Irae, dieu de la foudre et de la lumière. Regardez un peu cette image-là. Elle est empruntée. Il adore les peintres du corps comme Delacroix, comme Bacon, comme Goya. Je vous ai mis deux images de Goya où on voit une espèce de regard fou de Chronos, plus ce corps puissant du colosse, etc. Il emprunte à ce type de peinture. Donc, on a cette figure d'Horus qui est le mâle sur mâle, qui est aussi un maître créateur d'ordre et de désordre, assumant son hubris divine. Toutes les religions posent à leur source un chaos que le divin organise en cosmos ainsi qu'une divinité qui instaure une séparation axiologique entre le divin, l'humain et l'animal. Et à cet égard, les trois volets de la trilogie Nicopole, la foi aux immortels, la femme piège et froid effroiteur, troublent cette organisation cosmique tout en jouant de ses codes. On est entre jardin zoologique et jardin théologique. La liaison entre Dieu et animaux, bien entendu, est particulièrement visible dans la foi aux immortels, etc. On voit ces dieux à tête animale, Horus à tête de faucon, etc. Le glyphe égyptien pour signifier la divinité, d'ailleurs, est un faucon sur son perchoir, donc animal, dieu, etc. Ces dieux sont en fait autant des symboles, des caractères que des animaux ou que des personnages. A l'inverse, les animaux peuvent aussi, sous le dessin d'Enkidilan, devenir des caractères et des puissances. Froid Équateur les met vraiment beaucoup en avant. De même, enfin, l'être humain ne pouvait pas rester indemne de ces transits verticaux entre animalité et divinité. Nicopole, qui est investi par Horus, est d'abord possédé, comprimé, puis rétabli un modus vivendi dans la fin de piège, ce qui lui permet d'être un enthousiaste au sens étymologique, ce qui lui confère aussi des pouvoirs. À la fin de la trilogie, voilà comment il discute un moment d'homme à Dieu, donc une relation très horizontale. C'est un peu étonnant dans un salon. Horus est un peu calmé d'ailleurs sous cette volonté de discuter. Et de l'autre, la relation à l'animalité est aussi présente. On voit une espèce de dialogue par motifs picturaux interposés entre cet homme à veste de peau de girafe et puis ces espèces de panthères à rayures vertes. Vous voyez, et ce qui fait la veste n'est pas loin aussi d'être une caractéristique d'identité, etc. Un trouble des identités. On a donc un flottement à la fois sur l'axe vertical et sur l'axe horizontal. L'axe vertical du céleste terrestre est l'axe horizontal de l'aventure, de l'histoire. Et donc, ce flottement pourrait atténuer tout cela, sauf qu'il renforce finalement l'aspect transcendant ou transcendantal de la narration. Le pivot des récits est en fait caché, me semble-t-il plus abstrait, tournant autour de l'immortalité, de la mort, de la naissance, ce qui apparaît fortement dans la table piège. Ouais. Donc je passe à ma deuxième station, autour de la mort, de l'immortalité, de la transcendance. Les trois volets de la trilogie, il est tentant de penser que la femme piège est un peu décalée, comme une sorte d'hymne à la beauté féminine, parce qu'Intibilam, finalement, a une passion pour le dessin des corps féminins. Je vais vous en montrer quelques-uns. On est aussi dans des figures qui reprennent aussi un peu la statuaire religieuse. Ça me fait penser à une Pietà, par exemple, inversée. Il ne dédaigne pas aussi peindre vraiment, presque par plaisir, les figures de la féminité, une femme au miroir se maquillant. Une sorte de passion pour la féminité. Il ne dédaigne pas non plus aussi peindre la virilité. Alors on a un russe qui est très puissant. Plus mal que mal. Pour autant, le plaisir du dessin et la beauté des images n'est pas ici hors sol, hors scénario, comme un pur plaisir valant pour lui-même. Il s'appuie et il appuie une méditation silencieuse sur la mort, sur l'amour, sur la jeunesse. Et je voudrais montrer ça. La première idée qui a trotté à l'esprit d'Inkibilam, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant même celle de la pyramide et des dieux égyptiens, c'est de mettre en avant un personnage de femme fort, qui sera un contrepoids à une société mâle. Et personnage qui sera absent au début de l'histoire. C'est cette idée qui l'a conduit d'abord à compléter une société machiste pour mieux faire apparaître par contraste Gilles et son indépendance. Bon. La pyramide n'est venue qu'après comme un gag burlesque, un espèce de défi. La femme piège n'est pas vraiment un hymne à la femme. C'est plutôt un album de la narration d'un parcours de femme jalonné d'événements traumatiques, de morts. Et Inkibilam reconnaît le lien avec sa propre histoire familiale. Les souvenirs de sa mère se débrouillant pour faire vivre sa famille alors que son père est absent. C'est parti à Paris. Alors, tous les étaient restés à Belgrade. La femme piège s'ouvre sur un premier mort, celui du compagnon de Gilles Bioscott. John, un alphéradien qui ne peut survivre à l'atmosphère terrestre qu'en s'en protégeant. Le visage de John restera toujours invisible, caché derrière un masque noir. Jill, venu sur place, verra John mort, placé dans une cabine téléphonique où il a été exécuté. Son masque noir immaculé de son sang blanc d'alphératien. Plus tard, on comprendra pourtant que John, apparemment bien mort, s'est régénéré. On le voit veiller furtivement sur Jill, il la suit aussi à Berlin, il survit à d'autres coups de feu, et il finit par intervenir en sauveur à la fin de la femme piège, laissant à la fois Nicopole et Horus médusés. Alors voilà cette image. Et là, Nicopole voit John apparaître, et là, parle d'apparition. Et Horus, il ne dit rien. Comme si John était franchement un cran au-dessus. John, c'est la figure de la transcendance, c'est la figure du passeur. C'est la figure aussi d'une forme d'amour et d'une forme de passeur de singularité. Donc, il aide Jill à consommer les pilules dans la bonne posologie, et il l'embrasse et puis il repart. C'est une figure de l'immortalité de l'amour, finalement, John. Immortel, il survit et se régénère, meurt et revit par résurrection. Amour, il embrasse tendrement Jill, tout en la laissant poursuivre son aventure avec l'homme-dieu Nicopole Horus. Amour encore, Jill se souvient du cri de John lorsqu'il faisait l'amour, le même cri qu'il pouvait avoir en se blessant à la lumière. L'amour, à l'image de John, reste pudique et caché, au-delà des mots, au-delà du figurable, sans visage. Sa résurrection aussi était d'ailleurs irreprésentable puisque c'est la seule image qu'on ait, noyée dans le bleu d'un enregistrement de mauvaise qualité. D'autres morts jalonnent la femme piège, celle des carnages d'Horus, ivre de colère. Celles aussi, ce sont des morts fictifs, des amants imaginaires ou violeurs de Jill, qu'elle pense avoir tué avec l'antenne de son scriptwalker. Ce sont des morts brutales, des morts de violence, des morts de viol. Toute la trajectoire de ce volet va d'ailleurs de la mort et du viol jusqu'à la vie et l'amour. Les dernières planches sont celles d'un voyage touristique et puis d'un voyage de noces. Alors là, vous avez Horus en touriste, en short. Il visite les pyramides. Bon. Voilà. Un voyage de noces aussi. Bon, c'est une image en plus sur laquelle Enki Bilal revient dans les entretiens. Elle dit, mais arrêtez de me dire que mes femmes sont froides et qu'elles... Mais que c'est triste, etc. Regardez, la dernière image de la femme pièce, c'est « Embrasse-moi ». Ça fait un peu avoir ses appréciations. Alors, prise sous un autre angle d'approche, la femme piège est complémentaire de la foire aux immortels. Le premier mettait en scène une société dictatoriale qui avait enfermé les femmes comme reproductrices. Alors que par contraste, la femme piège met en avant les femmes et surtout Jill. Enki Bilal ne cache d'ailleurs pas son féminisme, refusant que ces femmes aient le rôle auquel elles se cantonnaient souvent dans la bande dessinée à l'époque, un rôle de stéréotype de faire valoir sexuel. Alors que pour lui, les femmes qui essayent de camper sont des personnages centraux, qui ont des tiraillements, qui ont une épaisseur, une indépendance et une envie de s'en sortir. Citation de Enki Bilal, elles sont pour moi une garantie, les sentinelles d'un monde qu'elles préservent. Ça a à voir avec l'histoire, dit-il dans cet ouvrage d'entretien. Jill et John sont d'ailleurs l'espoir, finalement, par leur complémentarité. Jill, l'une est donc exposée, souvent à demi-nu. L'autre, John, ne dévoile rien de son corps. L'une a la peau d'une blancheur laiteuse, alors que de son beau pensée noire la honte, on les voit transcrites d'ailleurs par le scriptographe sur fond noir. Parce que l'autre, John, est noir, mais de sang blanc. Le couple Jill-John, est une sorte d'incarnation du Taijitu, le signe du yin et du yang. Un peu revisité, parce que. Le blanc et le noir s'embrassent l'un dans l'autre. Le noir contient du blanc et le blanc du noir. Mais le blanc contient du noir, mais c'est surtout du bleu, finalement. Ce qui crée un effet de dépassement du signe aussi, une nuance d'espoir. Donc, ce symbole, hein, qui est connu et qui n'est pas seulement asiatique d'ailleurs, qui symbolise l'union des contraires, une union sexuée, dynamique, féconde, avec un mouvement, impulse aussi son propre dépassement et sa propre transcendance. C'est pour ça que, juste après la femme piège, dans l'ouvrage qui rassemble la trilogie Nicopole, et avant d'entamer Froid Équateur, vous avez des pages de Bleu Équateur qui reprennent des dessins de bleu sang, avec des couples qui s'embrassent. Donc vous avez cette image de dynamisme du couple complémentaire qui aussi après des images de viol finalement des scènes de tendresse. Voilà. Par ailleurs, je pense qu'on peut parler un peu de ce bleu. Oui. Alors le Taijitu, c'est aussi ce que les Chinois appellent le signe du poisson. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport avec le fait que finalement il y a pas mal de poissons et de poissons bleus chez Enki Bilal. C'est assez curieux. Bon, il y a une pensée picturale. C'est assez déroutant, etc. Alors le bleu, qu'est-ce que c'est que ce bleu finalement? Voici ce qu'il nous dit Enki Bilal. La peinture amène le langage des couleurs. Je me sers de la couleur comme d'un élément narratif important. Alors le bleu, bon. En termes de symbolique du bleu, c'est assez clair. C'est la couleur de l'espoir, c'est la couleur céleste. C'est donc quelque part aussi la couleur du divin. C'est aussi la couleur de la mutation. Couleur de la singularité de J, qui est humaine, mais plus qu'humaine, quelque part. C'est une couleur de vie. C'est la couleur de l'amour, des larmes, des cheveux, des lèvres, de la féminité de J. Ça va être aussi la couleur de la naissance. Et ça va être aussi la couleur du nouveau, de l'humanité nouvelle, de la humanité nouvelle aussi, puis du cosmos nouveau. Voilà. Ça fait beaucoup pour une seule couleur. C'est curieux parce qu'on. Au début, le bleu, c'est du rouge orangé qui vire au bleu, souvent. Fumer des locomotives, c'est comme ça, le ciel aussi, c'est comme ça, etc. L'amour, le couple, le sexe, les caresses et la tendresse, donc forment ainsi l'axe d'une métaphysique dressée contre la violence, contre le viol, contre la folie. Ce ne sont plus les dieux qui impulsent cette élévation, mais une transcendance, promise à porter des fruits et à redistribuer toutes les cartes, puisque dans Froid Équateur, on apprend que Gilles a mis au monde l'enfant de Horus Nicopole. Un enfant lui aussi irreprésentable. À la fois animal, humain et divin. Bleu, bien sûr. Comme s'il transcendait toutes les catégories et les redistribuait. Son nom lui-même n'est pas connu. À cette question, Gilles répond, vous n'allez pas me croire, mais j'attends toujours qu'il me le dise. Donc on est dans l'indicible. Ça rappelle aussi une réflexion d'Enki Bilal à propos de la couleur et de l'indicible. Et il fait souvent référence au titre d'une nouvelle de Lovecraft, The Color Out of Space. La couleur tombée du ciel. Il n'y a donc finalement pas grand-chose d'érotico-chic, de jolies images sur papier glacé, de superficiel dans la table piège, mais plutôt une méditation contemporaine sur des dimensions métaphysiques de l'existence. La vie, la mort, la naissance. Tout cela entre le rien et le tout, entre le néant et la divinité. La dimension temporelle aussi est l'objet d'une exploration tacite. Puisque, à côté de l'éphémère de la vie et de la moisson des morts, nous trouvons quatre figures essentielles. Premièrement, nous avons l'éternité d'Horus, qui est un peu bloquée dans cette espèce de corps de pierre, qui est aussi la pierre de la pyramide. Tantôt déchaîné en Prométhée rageur, tantôt plus libre de colère, etc. Deuxième figure, nous avons l'immortalité de régénération de John. Figure plus humaine, mais en même temps au-delà du divin. Troisièmement, nous trouvons la survie dans la fécondité et dans l'engendrement. Figuré ici. Et quatrièmement, aussi, nous avons la postérité culturelle, à travers le texte, avec la question du script walker, donc cette espèce d'appareil qu'on pourrait appeler finalement un passeur de texte, puisque ce script walker, il permet d'envoyer un texte dans le passé. C'est pour ça qu'il a été publié dans Libération en 1986. Texte donc qui date plutôt de 2025. Voilà. Donc un passeur de texte, une image de postérité culturelle, une forme de transcendance immanente, méfie aussi à sa part de mystère. Donc cette porte vers la transcendance et vers le mystère n'est ni cachée, ni exposée, mais elle est tacite, elle est publique. Elle peut passer inaperçue derrière la captation de l'attention du lecteur par les morts spectaculaires, par la sensualité des dessins, mais néanmoins il y a aussi tout ça qui participe de cette espèce de méditation métaphysique. Est-ce qu'il me reste du temps ou non? Donc je vais résumer la dernière station autour d'Equator City, la cité du milieu du monde, finalement, puisque là, c'est la même idée, mais transformée à l'échelle du monde entier. Donc on est à la fin des temps, où tout se confond, on est dans un voyage, un transit. Donc ces images de train, il adore dessiner des locomotives, des choses comme ça, ces figures de transcendance, d'éléments qui se déchaînent, qui se coagulent, qui se mélangent, qui se reconfigurent, etc. Bon, toujours cette pyramide, mais là qui est l'objet de choses assez énigmatiques, où on s'interroge sur son statut aussi en termes de puissance surnaturelle, des choses comme ça, etc. Il y a aussi quelque chose d'assez amusant, c'est ce travail sur les échelles de notation, finalement. Ce n'est pas l'échelle de Moody's, mais là, c'est toute une série d'échelles. Alors, je vais vous en donner quelques-unes. L'échelle de Randall des coïncidences. L'échelle de Doyle des odeurs. L'échelle de Cousteau de l'humanitaire. L'échelle de Kane de la santé. L'échelle des températures de Celsius. L'échelle cerveau croate de la haine. Bon, je la connais bien. L'échelle des échelles du consortium KKDZO. Donc là, on commence à se dire, ils commencent à se moquer franchement des échelles ouvertement. Et puis, ici, dans cette image, 2,7 sur l'échelle de dépassement des échelles. Donc, tout est l'objet de mesures. On tente même de mesurer le dépassement des mesures, si bien que dans ce travail de mesure, tout devient des mesures. Je sais pas ce que le double A, le triple A, la belle du double A, on n'y comprend plus rien. On est dans le dépassement des mesures. La mesure des choses, engluée dans l'immanence, s'évade poétiquement vers une transcendance. Le triple A, le quadruple A, pourquoi pas. Qui rassemble à la fois l'humour, l'étonnement et le mystère, le sens du mystère. Voilà. Bon, pour le reste, je vous passe juste les images, mais on a cette rencontre qui est la rencontre de Nicopole, père et fils, qui sont à ce moment-là possédés par Anubis et Horus. Donc, double rencontre avec ces pingouins qui traversent. Alors les pingouins, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? C'est joli, ce noir et blanc, pourquoi ils ont X, etc. Et les pingouins, finalement, ce sont des animaux qui appartiennent au genre des oiseaux, donc aériens, mais qui marchent sur la terre, donc terrestre, et qui plongent dans l'eau, donc aquatique. Donc fusion des éléments. Et juste après la rencontre, en face à face, on a cette image de transcendance qui est assez impressionnante et très classique dans son traitement pictural. Elle n'est pas facile à figurer, mais vous avez donc le pingouin, l'animal, les deux humains qui se rencontrent avec le bonnet qui est... Et puis ce départ de Horus qui embrasse Anubis. Et tout en haut, le rouge orangé qui coagule en bleu, l'espoir, la transcendance. Donc ça, c'est vraiment une image très verticale, très métaphysique, très religieuse au sens non pas dogmatique du terme, mais au sens d'une puissance spirituelle. Voilà. En même temps, les deux Égyptiens se cassent la figure, tombent sur la Babel terrestre d'Equator City. Bon, ils en sortent bien cabossés, eux, un peu pitoyables, mêlés aux humains, tandis que les humains, eux, on voit la vertu de l'amour et des couleurs, d'ailleurs, très... On n'est plus dans la couleur de la chair, on n'est plus dans le blanc immaculé du G, ici. Que disent-ils, ces deux-là? Je me reconstruis. Donc, chaos, cosmos, reconstruction. Avec cette figure de l'enfant, Dieu, qui marche sur une corniche, c'est-à-dire entre le vertical et l'horizontal, et qui maîtrise les éléments. Voilà. Donc, je ne vous donnerai pas de réponse, il faut vous lier avec cette question. Station suivante, il s'adresse à nous, et là, vous pouvez poursuivre avec Immortel Ad Vitam, qui a renforcé l'aspect transcendance, passage, avec la figure de John. Vous pouvez poursuivre avec le sommeil du monstre, le conflit des religions, qu'il a pris vraiment, lui, qui vient de Belgrade, etc. Et puis avec Animal Z, où le conflit cosmique crée vraiment un chaos, etc. Ça, j'en avais parlé il y a deux ans. Voilà, je vous remercie.
Merci Jérôme Goffet, merci Julien Baudry de ces deux présentations étonnantes et très riches. Nous, notre prochaine station, c'est une station de quelques minutes de questions, suivie de la pause, donc oui.
Il y a un micro dans la
oui,
est-ce qu'il y a un micro pour la salle?
C'est ce que je suis en train de regarder. Apparemment, non.
La voix, elle n'est pas extraordinairement puissante.
Oui, oui, c'est pour ça, je pense que c'est pour ça.
Oui,
il y a du fil en dessous.
Je voudrais surtout attirer encore un peu à l'avenir.
Et vive la technologie sans fil.
Bon, je voudrais surtout réagir à l'exposé de M. Baudry. Parce qu'il me semble qu'il y a trois grands êtres absents dans son exposé. Le premier, sont les trois absents sur lesquels on peut mal comprendre l'équilibre instable qui s'est instauré après la guerre, enfin après la Seconde Guerre mondiale. Le premier grand absent, c'est Le Téméraire, la revue pour jeunes qui paraît sous Vichy et qui fait le pont, qui essaie entre les revues principalement américaines de l'avant-guerre, enfin, qui continue d'ailleurs tant bien que mal pendant une partie de la guerre, jusque dans les années 43-44, avec bien des avatars et des difficultés. Or, dans Le Téméraire vont paraître et se former les dessinateurs de bandes dessinées comme Paul Yvet, Licois, Marie-Jacques, qui vont brusquement, d'ailleurs, en l'espace d'une semaine, se refaire une vertu, non pas que leur collaboration n'a jamais été importante, et on va bizarrement les retrouver immédiatement dans Vaillant, par exemple avec Les Plaigniers de l'Espérance, la bande tout à fait remarquable de Poivet. Marie-Jacques va se retrouver dans Cocardie, je me souviens bien, et Licois, je ne sais plus si c'est Guerre à la Terre, donc c'est dans Cocardie aussi. Bon, donc c'est très important de comprendre l'existence, de connaître l'existence et d'analyser cette revue, Le Téméraire, qui a littéralement fait un pont. Alors, la loi scélérate de 1949 a été aussi le résultat d'alliances contre nature entre des forces politiques, en gros le MRP, qui était d'inspiration démocrate chrétienne, et le Parti communiste, contre la résurgence éventuelle des bandes américaines, enfin, et d'Opéra Mundi, pour le citer. Et alors, ça se trouve là qu'il y a deux autres, à mes yeux, missions. Il y a Cœur Vaillant, qui publie, je ne pourrais pas dire exactement quelle année, enfin, dès l'après-guerre, une bande de science-fiction qui est une conquête de la Lune, qui préfigure largement la conquête de la Lune de Tintin. Enfin, c'est une histoire spatiale destinée à un public peut-être plus jeune que celui de Poivet dans Vaillant. Le terme même, le nom même de Vaillant a été délibérément pris, inspiré de celui de Cœur Vaillant qui existait dès avant la guerre. Et alors, il y a une troisième revue qui s'est appelée Frangeux, et qui, elle, était l'émanation d'une tendance difficile, enfin, disons, socialiste, très SFIO. Elle était bien implantée dans les milieux scolaires, au niveau du primaire et du secondaire. Alors, elle publie peu de bandes dessinées, mais elle publie au moins un roman d'anticipation important. Donc, il y a là des enjeux importants, parce que de l'avant-guerre, on retient la continuité de l'importance de l'anticipation, de la projection dans l'espace, de la projection dans le futur, puis ça s'exprime sous différentes formes, et les créateurs qui interviennent là-dedans, qui sont passés d'un champ à un autre sans difficulté, sont très peu nombreux. Enfin, c'est une demi-douzaine, peut-être une douzaine de gens au maximum, dont certains d'entre nous rencontrer quelques-uns. Je crois qu'on peut très difficilement comprendre ce qui s'est passé après la guerre si on ne reconstitue pas ce schéma historique. Sur l'exposé de M. Goffet, je n'ai presque rien à dire, mais ce qu'il n'a pas dit, mais qu'il pensait peut-être, d'abord, la réaction très très violente de notre ami Villal contre le communisme, on ne peut pas passé sous silence. Bon, il a vécu, il n'est pas à l'heure de propos, enfin, encore qu'il soit assez facilement muet sur la question. Ensuite, ce bleu, c'est aussi le bleu traditionnel de la Vierge Marie, et le poisson est peut-être une référence lointaine au poisson des chrétiens. Enfin, je m'aventure un peu, mais il est difficile de ne pas y penser, surtout quand on connaît qui.
Vous souhaitez réagir?
Parce que M. Baudry, dans la réponse.
Oui, non, je pense qu'en effet, vous avez les titres que vous avez cités complètent, notamment sur le téméraire, le pont qui a pu se produire d'un point de vue générationnel dans la transmission de la tradition américaine aux auteurs.
C'est vers les mots inconnus, quelque chose comme ça, la bande.
Oui.
Vers les mots inconnus.
Et notamment, les générations des auteurs qu'on a vues, Dupont Marie-Jacques, se forment dans cette revue.
Patrick Gay.
Je peux peut-être, tout simplement, me lever, m'installer ici sans micro, peut-être. Oui. Pour Jérôme, il y a une image que j'ai trouvée magnifique, comme votre communication d'ailleurs. C'est ce plan, cette image où on voit le Dieu et l'homme qui discutent. Vous avez parlé de, l'horizontalité, l'aventure, l'histoire. Mais le point de vue qu'on a, le point de vue qu'on a, c'est celui, c'est un point de vue vertical. Et ce point de vue vertical, c'est celui du lecteur ou du bédéiste lui-même. Et est-ce que ça se retrouve ailleurs dans l'œuvre de Bilal que je connais très mal, ou très peu? Et est-ce que c'est le bédéiste qui se pose en démiurge?
Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il joue dès la trilogie triptyque Nicopole avec les points de vue de face, en contre-plongée, du dessus. Alors, ce qui est vraiment fascinant, c'est dans Animal Z, où franchement on a des inversions verticales. Ouais. On voit du dessus la femme hybride, et puis juste après, on la voit qui regarde le ciel. Et dans le ciel, qu'est-ce qu'il y a? Des éléphants qui volent, des ours blancs qui volent, des aigles qui volent, enfin, tout y passe. Donc, dans Animal Z, il a radicalisé l'impression chaotique de confusion de tous les repères, y compris les points cardinaux et la verticalité au bas. Ça devient presque systématique. Ici, je crois qu'il... j'en ai pas parlé, mais il y a un aspect du... un goût pour le décor. Berlin, on est à Berlin, Mauerpark. Il a peint aussi des figures sur le mur de Berlin, etc. Il y a des plans comme ça, etc. Il en joue. Regardez aussi le chat. Il y a plein de petits détails comme ça. Le chat, alors je ne sais pas si c'est une résurgence du rôle du chat dans le monde asiatique, mais le rôle du chat, c'est le passeur spirituel entre les morts et les vivants.
Les Égyptiens. C'est aussi.
Voilà.
Il est là dans la scène d'amour.
Voilà. Et les dieux principaux ne sont pas choisis au hasard. Horus, c'est le dieu des dieux, la puissance, c'est l'affirmation foudroyante, c'est Zeus, en fait, on pourrait dire. Anubis, c'est le dieu des morts, c'est pour ça qu'il est le gardien de la pyramide et qu'il est aussi dans la transcendance. Bastet, c'est la figure de la régénération, la figure du foyer, la figure de la féminité, etc. Donc, voilà son propos, etc. Les autres sont un peu en arrière-plan, sauf Bess, qui est le nain obèse, et qui est le dieu du foyer, le dieu des petites choses, le dieu du quotidien, qui était très aimé des Égyptiens. Donc, ces renversements de perspective, là, je ne sais pas, enfin, je me fais un peu l'oracle de Bilal, mais bon, on peut y penser beaucoup de choses.
Une autre question, Florence ?
Oui, moi j'aurais une question pour Julien à propos de cette fameuse loi de 1949 qui est une loi française et qui, je suppose, a fortement impacté la bande dessinée belge dans la mesure où le public est commun, je suppose.
En partie, oui.
Et à votre connaissance, dans les autres pays européens où il n'y avait pas cette loi, est-ce que la bande dessinée pour enfants se serait développée différemment? Et bizarrement, cette loi qui est une loi scélérate et qui a censuré, mais en même temps, quand même, la bande dessinée franco-belge de cette époque est d'une richesse extraordinaire. Donc je ne dis pas que cette loi a favorisé la bande dessinée franco-belge, bien sûr, mais je sais pas, est-ce que vous avez des vues sur ce qui a pu se passer dans d'autres pays?
Aux États-Unis, il y a eu un processus assez identique dans les années 50. Pour justement essayer, enfin, avec le même objectif de réduire, de moraliser en quelque sorte la bande dessinée, pas sur son impact exact et sur notamment son lien à la science-fiction, je ne sais pas exactement où.
En fait, je pensais peut-être plutôt à la bande dessinée européenne.
Je peux dire un mot là-dessus, M. Baudry. La loi scélérate de 1949 a donné un énorme coup de pouce à la bande dessinée belge. Elle a été largement c'est le point de départ de sa véritable explosion.
Parce que
cette loi ne s'appliquait pas en Belgique. Alors, ils ont pris les précautions nécessaires, ils en ont pris compte, etc. Elle ne s'appliquait pas non plus en Italie. Alors, je connais beaucoup bien le sujet, mais du coup, en Italie, il y a tout un versant de la bande dessinée italienne qui est carrément sadomasochiste, enfin qui est complètement délirante.
Et qui n'est pas destinée aux enfants, mais qui est bien traduite
plus ou moins sous le bouquet en France. Cette loi a abouti à des choses tout à fait paradoxales, que j'ai tout à fait bien connues. Ça a été les difficultés que Eric Losfeld a eues pour publier Barbarella. Donc combien sulfureuse. Jodel de la Moulage, etc. Bon, elle a continué à avoir des effets.
Et ça a permis à la bande dessinée de dire qu'elle pouvait occuper un créneau adulte, s'est barré du
Économiquement, oui, mais économiquement, l'essor de la bande dessinée belge est venu là.
Sur ce point, il y a quand même eu des bandes dessinées belges qui étaient exportées en France, qui ont aussi. Ponctuellement été censuré, certains
adaptations de Patrick
Mortimer. Donc il y a quand même eu des adaptations. Je dis donc c'est vrai que.
Tartin, Spirou et. Ont envahi le marché.
En tout cas, c'est vrai que les auteurs de ces revues de Tartin et Spirou ont dit par la suite que ce qu'on leur demandait en effet c'était de produire une bande dessinée qui puisse ensuite être diffusée en France. Donc il y a eu cet effet aussi sur la bande dessinée. Sur la bande dessinée belge, même s'il y a aussi quelques nuances, notamment avec ses albums de Blacky Mortimer, il y a d'autres quelques exemples ponctuels également qui font que qui nuancent un petit peu cet effet de masse.
On passe à la station pause.